Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. En Éthiopie, manifestation de protestation ce week-end, ce lundi à Addis Abeba, contre les violences intercommunautaires du week-end qui ont fait 23 morts dans la région Oromo, en périphérie de la capitale éthiopienne. Selon le chef de la police de la région Oromo, Alema Yehu Ejigo, cité par l'agence officielle ENA, un groupe organisé a perpétré une série de meurtres et de pillages à Bourayou, à l'ouest d'Addis Abeba. 70 suspects ont été interpellés. Il a fallu un fort déploiement des forces de sécurité pour rétablir l'ordre. Les manifestants à Addis Abeba accusent des jeunes Oromo de viser des membres d'autres groupes ethniques provenant du sud du pays qui se sont installés ces dernières années autour de la capitale. Addis Abeba est une ville multiethnique de 4 millions d'habitants qui connaît une forte croissance territoriale et démographique, mais elle est située au milieu de la région Oromo, d'où des conflits entre autochtones et nouveaux venus. Corne de l'Afrique toujours, l'Éthiopie et l'Érythrée ont signé dimanche en Arabie Saoudite un accord consolidant leur réconciliation et renforçant la sécurité et la stabilité de la région. Les détails avec Nicolas Pinault.
Les détails de ce nouvel accord signé dans la ville de Jeddah n'ont pas été divulgués, mais des sources proches du gouvernement saoudien affirment qu'il contribuera à consolider les relations entre les deux pays. Présidée par le roi Salman d'Arabie Saoudite, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence de son fils, le prince héritier Mohamed Ben Salman, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. L'accord de paix signé ce jour entre l'Éthiopie et l'Érythrée à Jeddah est un événement historique qui va contribuer au renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région. S'est félicité sur Twitter le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jouber. Le président érythréen, Isaias Afewerki, et le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, avaient officiellement mis fin le 9 juillet dernier à ce conflit frontalier qui a fait 80 000 morts entre 1998 et 2000, signalant un spectaculaire rapprochement opéré sous l'impulsion de M. Abiy. Le rapprochement s'est traduit notamment par la réouverture des ambassades à Asmara et Addis Abeba et le rétablissement des liaisons aériennes, des relations commerciales et des lignes téléphoniques entre les deux pays.
République démocratique du Congo, 7 leaders de l'opposition annoncent un grand meeting à Kinshasa le samedi 29 septembre pour exiger de bonnes élections dans le pays. Candidats à la présidence, pour la plupart, ces opposants ont fait connaître leurs intentions par le biais d'un communiqué qui dénonce l'instrumentalisation par le pouvoir de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'opposition politique qui milite toujours pour le respect de la Constitution et la mise en œuvre effective de toutes les mesures de décrispation prévues dans l'accord du 31 décembre 2016 tient à l'organisation des élections crédibles, inclusives et apaisées le 23 décembre prochain, indique le communiqué avant de poursuivre. Elle a aligné ses candidats à tous les niveaux et ne s'inscrit pas dans la logique du boycott des élections. Par contre, poursuit le communiqué, l'opposition politique ne permettra jamais la tenue d'une parodie d'élection. Ce communiqué signé par 7 leaders de l'opposition, Vital Kamerhe de l'UNC, Martin Fayoul de la Dynamique de l'opposition, Félix Tshisekedi de l'UDPS Tshisekedi, Adolphe Mouzito de l'UREP, Moïse Katumbi d'Ensemble pour le Changement, Jean-Pierre Bemba du MLC et Freddy Matungulu de Congo Nabisso annoncent donc l'organisation d'un grand meeting à Kinshasa le samedi 29 septembre courant pour appeler la population à adhérer à cette cause. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Politique en RDC toujours, l'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba entendra aujourd'hui la peine que lui inflige la CPI, la Cour pénale internationale, pour la condamnation de subornation de témoins qui lui a valu d'être exclu de la course à la présidence en RDC. En liberté provisoire, après avoir passé plus d'une décennie au centre de détention de la CPI à La Haye, où est basée la Cour, l'ancien vice-président congolais traîne avec lui une condamnation connexe qui lui a valu d'être définitivement exclu par la Cour constitutionnelle congolaise de la présidentielle du 23 décembre 2018.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville voisin, les populations demandent aux autorités de réorienter la coopération avec la Chine vers les priorités du pays, notamment l'industrialisation. Motif, ces dernières années, la Chine s'est surtout illustrée sur place au niveau de la construction d'infrastructures que les Congolais certes apprécient beaucoup, mais ils aimeraient plutôt une coopération plus diversifiée, créatrice d'emplois. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Brazzaville, Arsène Séverin.
À l'issue du Forum Chine-Afrique, le Congo a pu obtenir une douzaine d'accords dans les infrastructures et la formation, puis arracher un don de 26 milliards de francs CFA. Pas assez gros à comparer avec la Côte d'Ivoire qui a signé 18 accords pour 1900 milliards ou le Sénégal 10 accords pour 500 milliards. Mais le Congo garde sous le coude son accord de partenariat stratégique avec la Chine conclu en 2006. À Brazzaville, les populations estiment que ce partenariat reste porteur de beaucoup d'espoir. L'ancien ministre Aléa Kouala, qui a beaucoup travaillé avec les Chinois dans le cadre des zones économiques spéciales, affirme que la Chine pourrait aider le Congo à diversifier son économie.
La Chine, jusque-là, a financé la construction de nos infrastructures pour pouvoir justement permettre l'émergence d'une économie. Donc, la Chine tire déjà un profit. Mais du côté du Congo, il va falloir que nous réajustons les choses. Il est clair que, fondamentalement, la Chine est intéressée par les matières premières que nous avons. Et le Congo, de par sa position géoéconomique et géostratégique, disposant du seul port en eau profonde, eh bien, pourra devenir, si vous voulez, cette porte d'entrée et de sortie bien de toute l'Afrique centrale.
Ces dernières années, en effet, la Chine s'est investie à construire des infrastructures au Congo. L'analyste économique Obaminga Kosso estime qu'il est temps de repenser ce partenariat.
On ne peut pas dire qu'on est un État et près de 60 ans après l'indépendance, pour construire une bibliothèque, on a besoin de Chinois. Donc la perspective, il faut la changer. Quels sont réellement nos besoins? Il faut que nous évitions de nous retrouver dans une situation où chaque Congolais spécule en disant, parce que c'est ça, les Congolais sont allés en Chine chercher de l'argent. Ce n'est pas crédible pour le Congo. Donc la perspective a changé, c'est en changeant le cahier de charges, bien précis, en disant voici ce que nous voulons. Sinon, on va recommencer et je crains que dans 40 ans, ce soit les mêmes débats.
Mais le Congo traîne une lourde dette vis-à-vis de la Chine, ce qui fait dire à une large partie de la population que ce partenariat n'a finalement profité qu'aux Chinois. L'économiste Hassène Boussir revient sur ce lourd endettement.
Vous allez vous rendre compte que dans ce partenariat, la Chine profite pour avoir les matières premières, mais le Congo a eu quoi en contrepartie? La dette. Est-ce qu'on peut dire gagnant-gagnant si l'autre a eu la matière première, tu as eu la dette? On sait bien que déjà, dans le cadre toujours de cet accord stratégique, le Congo commercialise son brut directement à la Chine et dans le compte Exim Bank, on était à 3142 milliards et quelques qui ont été gagés à Exim Bank, c'est-à-dire que le pétrole est vendu, mais l'argent ne revient pas au Congo. Et donc, on ne va pas continuer comme ça parce qu'on asphyxie le trésor public congolais. Et ça, il n'a pas une marge de manœuvre pour mieux investir dans le cadre des problèmes sociaux. Donc, il faut revoir ce partenariat de telle sorte qu'il soit réellement gagnant-gagnant.
Le Congo et la Chine coopèrent depuis 1964 et plusieurs bâtiments publics, dont les stades et les barrages hydroélectriques, se sont élevés grâce à ce lien. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Actualité américaine pour terminer. Ici aux États-Unis, au moins 15 personnes ont perdu la vie après le passage de l'ouragan Florence dans le sud-est du pays. Les États de Caroline du Nord et de Caroline du Sud sont les plus touchés, alors que les autorités font face à la montée des eaux et préviennent que le pire reste encore à venir. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
La tempête Florence a été rétrogradée en dépression tropicale dimanche, mais les rafales de vent et les pluies diluviennes tombées depuis vendredi sur les deux États du Sud-Est restent un danger pour les habitants. Le patron de l'Agence fédérale des services d'urgence, Brock Long, a indiqué que le centre et l'ouest de la Caroline du Nord ainsi que la Virginie n'en avaient pas fini avec les intempéries. Nous en avons encore pour plusieurs jours, a-t-il dit sur CNN. Nous nous attendons à de gros dégâts, a-t-il lancé, précisant que des barrages risquaient d'être menacés à cause de la montée des eaux. Après avoir frappé la côte atlantique, Florence s'est enfoncée dans les terres où la pluie a fait grossir les cours d'eau, provoquant des inondations. Les sauveteurs ont secouru plus de 900 habitants des inondations, alors qu'environ 700 000 foyers restaient sans électricité en Caroline du Nord. Le président américain Donald Trump a salué sur Twitter les sauveteurs et les forces de l'ordre qui travaillent vraiment dur pour aider la population. Dans les villes frappées par la tempête, plusieurs cas de pillage ont été signalés et la police de Wilmington, en Caroline du Nord, a annoncé avoir arrêté 5 personnes prises en train de vandaliser un supermarché.
Et pour terminer, les relations entre Cuba et les États-Unis sont en recul depuis l'arrivée du président Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est ce qu'a déclaré ce dimanche le président cubain Miguel Díaz-Canel dans un entretien à la chaîne Telesur. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.